J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin au nom de tous ceux qui ont préparé et qui vont intervenir durant ce culte. Et j'aimerais introduire ce temps de célébration par une parole, un verset qui m'a habité tout au long de la semaine, que l'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 14. Un verset connu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Ce qui nous rassemble ce matin, c'est bien cette parole de Dieu que nous voulons proclamer, que nous voulons écouter, que nous voulons faire nôtre et célébrer. Et cette parole de Dieu est extraordinaire. Elle a été faite chair, nous dit l'apôtre Jean. La parole de Dieu n'est pas une parole en l'air, une de celles que l'on balaye trop facilement parce que ce ne serait que du vent. Non, cette parole a été faite chair. Elle s'est incarnée, elle s'est confrontée à la réalité de nos vies. Et je crois que c'est pour cela qu'elle est capable de nous rejoindre au plus profond de notre être. Ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas non plus une parole mensongère, une parole assassine, perfide, qui se joue de nous. Non, même si la parole de Dieu est parfois dure parce qu'elle dénonce le mal pour ce qu'il est et dévoile le péché qui est tapis en nous, elle est avant tout une parole qui fait grâce, une parole qui invite au recommencement, à la confiance, une parole qui révèle l'amour du Père. La parole a été faite chair et elle est pleine de grâce et de vérité. Ce n'est pas non plus une parole futile que l'on peut mépriser ou négliger par indifférence. C'est au contraire une parole qui a du poids, une parole qui pèse lourd dans nos vies, comme peut le faire un fondement sûr et solide. Oui, cette parole a le poids de la gloire. Une gloire éternelle, lumineuse, à l'image du Christ. La parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai besoin, pour avancer jour après jour, d'une parole forte, qui me rejoigne au plus profond de ce que je vis, une parole qui donne du sens à ce que je vis, une parole qui ouvre un chemin, une parole de paix et d'espérance. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Alors ce matin, nous voulons laisser résonner cette parole parmi nous. Mais je crois que la question aussi se pose, saurons-nous à notre tour habiter ce moment? C'est-à-dire, saurons-nous aussi être attentifs à cette parole qui nous est adressée? Serons-nous assez ouverts de cœur pour la recevoir et en retirer quelque chose? Parce que je crois qu'il y a une promesse pour celui et celle qui se met à écouter la parole de Dieu. Et là, peut-être que vous reconnaîtrez le texte dont Denis Félix nous parlera tout à l'heure. Cette promesse, c'est la suivante. Une seule chose est nécessaire. Celui qui se met à l'écoute du Christ a choisi la bonne part et elle ne lui sera point ôtée. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te bénissons. Tu es celui qui est venu habiter au milieu de nous, au milieu des louanges de ton peuple. C'est toi qui nous rassembles des quatre coins de l'horizon. Et nous te disons merci. Merci parce que tu es pour nous, Seigneur, celui qui donne la vie, celui qui remplit nos cœurs de paix et d'espérance. Oui, tu es là, mais saurons-nous te voir? Tu es là, mais saurons-nous goûter à ta présence? Tu sais combien parfois nos cœurs peuvent être lourds, peuvent être remplis de toutes choses. Seigneur, tu connais tous nos besoins de toutes sortes, nous en avons tant de ces besoins. Et pourtant ce matin, tu nous dis, une seule chose est nécessaire. Que nous puissions, Seigneur, entrer dans ton intimité ce matin, nous approcher de toi, que nous puissions goûter à ta présence et recevoir ce que tu as prévu pour nous, les bonnes choses que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Alors ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin et bénis tous ceux et celles qui n'ont pas pu être présents pour quelle que soit la raison, parce que tu es celui qui, là où on se trouve, est capable de bénir, de donner la paix et la joie. Dans le nom de Jésus. Amen.
Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait.
C'était dans Luc 10, les versets 38 à 42. Dieu ne sait pas compter. Il ne compte pas les efforts qu'on fait pour l'atteindre. On ne peut pas acheter sa faveur ou sa bénédiction parce qu'elles sont déjà là. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous n'avions encore rien fait pour lui, Christ est mort pour nous. Il est la parole faite chair, venu dans notre humanité vivre sur notre terre. Jésus n'est pas quelqu'un que l'on doit atteindre. Jésus est une personne que l'on reçoit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les évangiles racontent beaucoup de dialogues et de paraboles que Jésus a dites. Mais souvent je trouve que c'est difficile à comprendre. Parce que c'est pas ce qu'on attendait, ça correspond pas à notre manière de vivre, à notre manière de voir les choses. Je pense par exemple à la parabole des ouvriers de la dernière heure. C'est pas juste que les derniers arrivés reçoivent la même chose. On est dérangé, on est perturbé en nous-mêmes. Et des fois on sait pas très bien ce que ça veut dire. Hein. Nicodème, il faut naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça? Et je me suis dit une fois, mais peut-être que c'est parce que il n'y a pas seulement un seul chemin à trouver. Il nous dit pas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Comme s'il n'y avait pas un seul chemin où on pouvait marcher, où on pouvait se dire, mais là, moi, je suis juste et je risque plus rien. Comme si nous, on était les maîtres de... On pouvait s'assurer qu'on ne serait jamais en défaut. Et le texte de ce matin n'échappe pas à cette règle parce qu'il est dérangeant à plus d'un titre. Hein. Marthe, c'est celle qui se donne de la peine. C'est celle qui fait... Et puis, c'est à elle qu'on donne tort. Et puis, dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas ne rien faire. Vous êtes d'accord, hein, les étudiants, si vous étudiez pas, si vous réussissez pas vos examens, eh ben vous n'arriverez pas à avoir une profession, vous n'arriverez pas à gagner votre vie. Ça marche pas, on est obligé de faire des efforts. Et puis, à la maison, s'il n'y a personne qui fait la lessive, le ménage et la cuisine, mais ça va pas. On est obligé de faire. Et voilà que là, il semble que le faire est décrié et le rien faire est loué. Hein, ça ne joue pas. Et puis, une autre chose, c'est cette bonne part. C'est pas dit ce que c'est. Peut-être là aussi que ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne part universelle à chacun, mais que chacun a sa bonne part qui lui correspond à lui. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué, moi je suis une Marthe en puissance. Hein, quand je dois recevoir beaucoup de personnes ou quand j'ai quelque chose à organiser, je m'agite et je m'inquiète. J'ai peur de ne pas faire tout juste, tout bien et que tout le monde ne soit pas bien. Donc je me retrouve très fort dans Marthe. Mais je déteste être dans cet état d'agitation et d'inquiétude. Parce que quand on est dans cet état, on est fermé aux autres, on est même parfois fermé à soi-même parce qu'on se protège, hein, on est dans l'inquiétude, on se protège. Et parfois même, on est paralysé dans notre pensée. J'aime pas être dans cet état parce que... Mais bon, l'inquiétude, il me semble que ça fait partie de notre vie aussi. On peut pas vivre... Je sais pas si ça existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais été inquiet ou qui n'est jamais inquiet? Ça n'existe pas. Et je pense que c'est normal parce que très vite, on se rend compte qu'on n'est pas tout puissant et on est vulnérable. Il peut nous arriver quelque chose. Le malheur, ça existe. La souffrance, ça existe. La vie nous l'a appris depuis notre petite enfance et on a construit des systèmes de défense pour ne pas avoir, pour que ce malheur ne nous tombe pas dessus. On essaye d'être un peu maître des événements et de nos vies pour que le malheur ne nous arrive pas. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est qu'on a une Marthe qui aime recevoir, qui fait ce qu'elle aime, hein, elle l'a choisi, qui est dans le rôle que la société de l'époque lui donne. Elle est à la maison, elle travaille, elle n'est pas dans la vie religieuse. C'est les garçons qui font leur bar mitzvah à 13 ans pour entrer dans la vie de la synagogue. Et puis elle est agitée et inquiète. Elle est à sa place et elle est agitée et inquiète. Ça va pas ensemble. Et puis on a une Marie qui n'est pas à sa place, qui est au pied de Jésus, qui a osé dire non aux conventions, qui a osé dire non aux attentes de sa sœur, et qui est calme et confiante. Ça va pas ensemble à nos yeux humains. On nous dit, et là j'ai regardé plusieurs versions, que Marthe accueille Jésus dans sa maison et qu'elle est très affairée aux nombreuses tâches du ménage. Il y en a qui disent qu'elle est affairée à un service compliqué, ou bien qu'elle était affairée aux nombreuses tâches du service. Donc toutes les versions semblent dire que Marthe en fait un peu beaucoup, un peu plus que le nécessaire. Mais pourquoi est-ce qu'elle en fait plus que le nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Est-ce que ça touche quelque chose en vous? Et puis, elle prend la parole. On a Marie dans un coin avec Jésus, qui est tranquille, calme. Puis on a Marthe qui s'affaire de tous les côtés, de tous les sens. Mais elle n'est pas avec Jésus. Hein. Il y a rien qui se passe entre elle et Jésus. Puis elle prend la parole, puis elle lui dit, mais cela ne te fait-il rien? Elle accuse Jésus. Que ma sœur me laisse toute seule? Là, elle accuse Marthe. Marie, pardon. Et puis, elle donne des ordres. Hein. Dis-lui de venir m'aider. Elle contrôle, elle dirige, elle veut diriger les autres. Elle veut contrôler ces événements pour que l'inquiétude qu'elle a en elle, pour cette crainte qu'elle a d'un malheur qui pourrait lui advenir, ne soit pas là. Et Jésus? Jésus ne se sent pas coupable. Malgré l'accusation, il ne se sent pas coupable. Et pire, il ne fait pas ce qu'elle veut. Hein, il n'exauce pas sa prière. Il ne va pas demander à Marie d'aider Marthe. Et il dédouane Marie. Parce qu'il dit, elle a choisi la bonne part. Et puis, Jésus s'intéresse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il parle de Marthe, il dit, tu es agitée et inquiète. Quand il parle de Marie, il dit, elle a choisi la bonne part. Il s'intéresse à ce qu'elles vivent à l'intérieur plus qu'à ce qu'elles font. Et puis, il porte le même intérêt à Marthe qu'à Marie. Hein? À Marthe qui est inquiète et qui n'est pas dans le calme, qui a tout faux. Hein? Et à Marie qui a choisi la bonne part, qui a fait tout juste, il a le même intérêt pour les deux. Et puis aussi, il prend en compte l'inquiétude. Hein. Il ne dit pas, si tu me faisais confiance, si tu avais assez confiance en Dieu, tu ne serais pas dans l'inquiétude. C'est un reproche qu'on se fait souvent à soi-même. Et puis, Marthe, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit derrière ce qu'elle a dit? Cela ne te fait-il rien? Il n'y a personne qui me voit. Il n'y a personne qui prend en compte ce que je suis. Que ma sœur me laisse toute seule. Elle se sent seule. Elle se sent abandonnée. Elle se sent livrée à elle-même. Il n'y a personne qui la soutient. Il n'y a personne qui pense à elle. Et voilà que Jésus dit « Marthe, Marthe ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de répéter ce prénom quand vous êtes en contact avec quelqu'un. Donc ça ne m'est pas arrivé souvent, mais que si je faisais ça, ce serait que quelqu'un m'a partagé quelque chose qu'il vit, qui est douloureux. J'ai reçu, j'ai compris ce que cette personne a dit. Et je lui dis, mais Marthe, Marthe, ça veut dire, regarde-moi, j'ai quelque chose à te transmettre de ma personne, de mon regard. J'aimerais te dire que je t'ai reçu. J'aimerais te dire que je t'ai entendu. Et j'aimerais que cette personne entende toute la tendresse, toute la compassion que j'ai pour elle. Et je crois qu'il y a ça dans le Marthe, Marthe. Il lui dit qu'il l'a vu, il sait. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Laisse Marie où elle est. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Une seule chose. Et Marthe était affairée aux nombreuses tâches d'un service compliqué. Une seule chose. C'est un peu le vide, hein. On a mis plein de barrières pour que le malheur ne nous arrive pas dessus, pour se protéger. Et il n'y a plus qu'une seule chose. Puis elle a choisi. Ça veut dire que c'est un acte conscient, volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui lui est arrivé comme ça par hasard. On choisit de croire, on choisit de recevoir ce que Dieu nous donne. Et on choisit de s'y attacher, même quand parfois en nous, les sentiments sont négatifs, nous disent le contraire. Non, ce que j'ai reçu, c'est ça, et c'est ça que je veux croire. C'est parfois un combat. Puis c'est une bonne chose, Jésus. Hein, il a dit que c'était la bonne part, donc Jésus approuve ce que Marie a fait. Elle ne lui sera pas ôtée, c'est lui qui se porte garant. C'est lui qui lui dit, cette part, elle est bonne, ça ne sera pas ôté, personne ne peut nous enlever ce que Dieu nous a donné. Alors je me dis, si derrière ce Marthe, Marthe, il y avait un appel. Marthe, Marthe. Jules, Julie, hein? Sophie, Christine, David, je ne sais pas. Marthe, Marthe, regarde-moi. C'est moi tout entier que j'investis dans la relation avec toi. Et s'il y avait une prière, crois-moi, reçois-moi. Marthe, Marthe, je ne t'ai pas demandé cela. Sois avec moi. Marthe voulait que Jésus demande à Marie de l'aider, mais Jésus lui offre sa personne. Une relation. Alors maintenant, dans le moment de silence qui va suivre, habité par une musique, je vous invite à écouter votre prénom répété deux fois par Dieu, par Jésus. À lui raconter ce qu'il y a dans votre cœur, à oser le dire. Marthe lui a dit ce qu'il y avait dans son cœur. Même si c'est mal dit, il comprend, il entend, il reçoit. Et puis s'il y a une idée qui vous vient, c'est difficile de reconnaître la parole de Dieu, mais il me semble qu'elle produit une détente, qu'elle produit une porte ouverte quand tout est fermé, elle produit quelque chose qui nous fait du bien. Alors ayons confiance et accueillons-la. C'est ce calme et cette confiance que Marie, qui habitait Marie, parce qu'elle était dans la parole que Jésus lui avait donnée, qu'elle avait reçue. La main de Dieu, la main de Jésus, c'est une main douce et maternelle qui sait, qui conforte, qui répare sans heurts, qui remet dans la juste place. Elle est ferme comme la bonne terre sur qui tout repose. Ainsi est-elle le lieu sûr où je cesse de m'effrayer, d'être à moi-même frayeur. Seigneur, j'aimerais te prier pour moi-même et pour chacun d'entre nous, de nous donner des oreilles pour t'entendre, un cœur pour te recevoir, un cœur qui ose croire que tu nous dis des bonnes paroles, des paroles qui nous font du bien et la force de nous y accrocher, quand parfois le regard des autres, les idées qui circulent, ne vont pas dans le même sens. Seigneur, ta parole vient de multiples endroits. Elle est aussi dans une conversation. Elle est dans quelque chose que l'on voit, que nous sachions la reconnaître. Elle est aussi dans ta parole, que nous sachions la reconnaître. Merci, Seigneur, de l'amour dont tu nous aimes, qui ne finira jamais et dont personne ne pourra nous séparer. Amen.
Marie a choisi la bonne paire, être au pied de Jésus, être dans cette intimité avec le Christ est source de paix et de joie. Et ce qui me touche particulièrement dans ce récit, c'est que cette paire ne sera pas ôtée à Marie. Pourtant, Jésus sera quelque temps plus tard enlevé brutalement à ses disciples, il sera retranché de la terre des vivants. Pourtant, cette bonne part ne sera pas ôtée. Quelles que soient les circonstances de sa vie, Marie pourra toujours retourner aux pieds de Jésus, recevoir à nouveau cette paix et cette joie dont elle a besoin, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est vivant auprès d'elle. Cette communion avec Dieu au travers de Jésus-Christ est un don gratuit, et éternel. C'est ce que nous dit la lettre aux Romains au chapitre 6. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.